Bonsoir à tous. Je vous salue chaleureusement. Voilà, merci d'être venu pour poursuivre ce cycle des prédications de carême que nous avons voulu sur l'Eucharistie. Je propose de vous lever d'abord que nous invoquions l'Esprit Saint ensemble.
Viens, Esprit de Saint.
Ces derniers mois, la communion a été en question pour nous tous. Je relève trois points en particulier. D'abord, à travers le premier confinement, où il y a eu l'absence de messe célébrée tous ensemble, absence d'assemblée réunie, des liturgies domestiques, des messes suivies à la télévision, mais pas de communion reçue, ou bien rarement reçu, en tout cas en dehors de la célébration de la messe, découverte peut-être pour certains de la beauté d'une communion spirituelle, mais qui n'est pas la même chose. Ce qui vous a donné pour beaucoup l'occasion de vivre ce que vivent habituellement des personnes malades ou des personnes âgées qui reçoivent la communion en dehors du cadre de la messe. Un deuxième point qui a été en question pour nous, c'est avec ma décision pastorale de ne pas empêcher ceux qui désirent recevoir l'Eucharistie sur les lèvres de le faire dans le cadre de la permission de notre évêque, en trouvant des moyens, pas toujours au mieux respectés, de veiller le plus possible à ceux qui s'en trouvaient dérangés. Et je suis navré que ça se soit passé pour certains, que ça ait pesé pour certains, car la communion doit être aussi un moment de communion entre nous. Et puis aussi, je relève tout un tas de premières communions de petits-enfants qui ont été repoussés, qui sont encore repoussés. Et je sais que certains jeunes gens grandissent et ont une grande soif, un grand désir de recevoir la communion pour la première fois. Alors, je voudrais développer mon propos en trois points. Il y aura d'abord, je vais essayer d'entrer dans l'essence de la communion, ou même l'essence de la communion, en particulier avec un petit parcours biblique. Dans un deuxième point, on verra communion et alliance. Et enfin, la communion en pratique, en essayant de répondre avec, voilà, de par ma charge pastorale, pas mal d'idées que vous avez ou de questions que vous pouvez porter. Alors, si je prends le Concile Vatican II, j'ai apporté ici, mais il a bien vécu. Et si je prends le lexique à la fin qui nous renvoie au contenu, eh bien, à l'article communion, je vois toutes sortes de sous-articles. Communion avec Dieu, communion de l'Église, communion ou communauté ecclésiale séparée, communion anglicane, communion des églises, communion hiérarchique, communion des personnes, communion sacramentelle, communion des saints. Rien que ce petit exercice nous permet de voir que ce mot de communion, il a un sens très large. Et ce qui est beau, c'est que dans la communion qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la communion au cœur de la messe, la communion sacramentelle, on va retrouver bien chacun de ces aspects, parce que communion, c'est justement ce lien de la personne avec Dieu, ce lien qui construit l'Église, la communauté, ce lien qui nous envoie auprès de tout homme dans l'annonce de l'Évangile. Voilà, la communion a donc un sens bien large, et c'est beau de ne passer à côté d'aucun de ces sens, parce que tout se trouve réuni comme un sommet dans la communion eucharistique. Le désir de communion avec Dieu n'est pas étranger du cœur humain. On voit que dans les religions, et déjà dans les religions de l'Antiquité, on cherche à communier à la divinité. Et dans l'Ancien Testament, on va trouver beaucoup cet élan de l'homme pour se rapprocher de Dieu. Et pourtant, le mot « communion », qui en grec se dit « koinonia », est quasiment absent de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament va être une longue préparation à ce qui va vraiment se construire par Jésus, en Jésus, dans le Nouveau Testament. Les Israélites vont chercher ainsi à se rapprocher de leur Dieu par le culte, en particulier en offrant des sacrifices parmi eux, ce qu'on appelle des sacrifices de paix, c'est-à-dire de bonheur, où la victime offerte est offerte et partagée et consommée par celui qui offre. On les appelle parfois sacrifices de communion dans nos traductions bibliques, mais en fait, ce n'est pas encore ce mot-là qui est propre au Nouveau Testament. C'est plutôt se mettre en présence, participer à un repas sacré parce qu'il est devant Dieu. Mais on n'est pas encore dans la communion au sens fort du terme. Tout le sens de l'Alliance vient manifester ce dessein de communion qui vient de Dieu, où Dieu va s'approcher de l'homme et va mettre dans le cœur de l'homme ce désir de se rapprocher de Dieu. Et ça va s'exprimer par la loi, une charte de cette alliance. Obéir à la loi, se laisser façonner par les préceptes, c'est trouver Dieu et s'unir à lui. C'est aussi toute l'école de la prière qu'on va trouver en particulier à travers le livre des psaumes, où l'israélite vit cette fidélité à l'alliance d'une façon très intime. Il exprime son élan d'admiration, de joie devant les merveilles divines. Il Il exprime la bénédiction, la louange, l'action de grâce, la supplication aussi, tout cela qui est recherche passionnée de présence de Dieu, de rencontre avec lui. Et puis enfin, dans l'Ancien Testament, on va trouver aussi ce rapprochement de Dieu à travers des liens de communauté, communauté de pensée et de vie au service de Dieu, autour du temple, mais aussi, vous savez, le soin qui est demandé aux Juifs observants de ne pas abandonner son frère, de ne pas abandonner celui qui est dans sa maison, même au service, d'avoir des sollicitudes pour les déshérités, pour les prisonniers. Voilà, c'est toutes choses qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui montrent déjà qu'on fait le lien entre une communion, on va dire, horizontale dans une communauté et une communion verticale, une mise en présence de Dieu. Et dans le Christ, la communion avec Dieu devient non plus seulement un rapprochement, se poster devant, s'approcher de Dieu, mais devient une réalité. Dieu avec nous. Dieu au milieu des hommes. Dieu qui va se donner en nourriture. Rappelez-vous tout le magnifique discours de Jésus sur le pain de vie, l'évangile de Jean, chapitre 6. Voilà, qui nous invite à manger sa chair, à boire son sang. Des paroles extrêmement choquantes pour un juif de l'époque, étant donné que le sang, c'est la vie, ça appartient à Dieu, on ne boit pas le sang. Eh bien, jusque-là, le Seigneur va nous introduire à cette démarche qui nous donnera d'avoir part vraiment à Dieu, d'avoir part à lui-même pleinement. Il a choisi ce moyen pour nous rejoindre, de se faire nourriture. La communion eucharistique est d'abord une nourriture, elle est le pain du voyage, comme l'avait annoncé la manne des Hébreux au désert, le pain qui donne des forces, qui permet de vivre concrètement, d'être nourri, de grandir. C'est d'abord une nourriture, d'abord l'essence, en quelque sorte, dont on a besoin, le carburant qu'on a besoin spirituellement pour s'épanouir. Il a choisi ce moyen étonnant pour venir au cœur de notre intimité par les espèces du pain et du vin consacrés. C'est une grande énigme pour ceux qui ne connaissent pas trop les chrétiens. Je pense les Romains qui voyaient les chrétiens s'étonner de ces gens qui trouvaient un peu anthropophages. Ils mangent leur Dieu. Vous voyez, c'est bien étonnant. Et c'est tellement étonnant que c'est parfaitement divin. On n'invente pas une chose pareille, tellement c'est déstabilisant et scandaleux. Oui, Dieu a choisi ce moyen pour nous rejoindre dans notre intimité, pour que l'alliance ne soit plus quelque chose d'extérieur, mais de profondément intérieur. J'aime cette parole du pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, un texte écrit en 1981 suite au synode pour la famille, où il disait que l'homme a été créé par amour et pour l'amour. Par amour parce qu'il a été créé gratuitement, Dieu n'avait pas besoin de nous créer pour être ce qu'il est, mais il nous a créés pour l'amour, c'est-à-dire pour nous donner d'avoir part à l'amour qui est sa nature même. Saint Jean nous l'a dit, Dieu est amour. Et si nous suivons attentivement toutes les révélations de Jésus, nous touchons un peu du doigt tout ce grand mystère d'amour qui existe à l'intérieur de la Sainte Trinité, cette communion de personnes, communion de personnes auxquelles il veut que nous ayons part. Le Père de toute éternité se donne entièrement, se vide de lui-même dans le Fils qui se reçoit, il engendre le Fils qui se reçoit du Père et qui se donne à son tour totalement. Et cet échange d'amour, nous dit saint Augustin, eh bien, c'est la personne même de l'Esprit Saint qui est spirée par le Père et le Fils. C'est rien de moins que cette communion-là, cette communion de personnes qui veut nous être partagée, et nous sommes créés pour cela. C'est pourquoi dans chaque Eucharistie, nous vivons les aspects extérieurs du sacrement, et bien ce pourquoi nous sommes profondément faits, pour communier, pour participer à cette communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi la messe est une vraie école de l'amour. Et là, je passe à ma deuxième partie. Je relève quelques lignes écrites par un de mes confrères, le père Pierre-Hervé Grosjean. C'est dans un livre sur l'affectivité. Puis ça vient culminer sur cette école de l'amour qu'est la messe. Il n'y a pas de plus belle école de l'amour, dit-il, que la messe. Vous voulez apprendre à aimer, allez à la messe. Vous y verrez ce que veut dire aimer. Vous entendrez Jésus vous redire « Ceci est mon corps, livré pour toi ». Connaissez-vous des paroles d'amour plus fortes que celles de la consécration ?« Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Il n'y a pas de parole plus conjugale que celle-ci. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que ces mots-là. Voilà ce qui se réalise au cœur de la messe. Jésus nous montre jusqu'où va l'amour vrai, jusqu'au don total de soi, de sa vie, de son cœur. Avoir part à cette communion d'amour, c'est pas seulement la recevoir, mais c'est la vivre. Se laisser transformer par cet élan qui nous entraîne à nous offrir, à nous donner totalement. Voilà ce qui est préparé dans l'offertoire à chaque messe, ce qui vient culminer dans l'acte de communier. C'est pourquoi je suis toujours très ému lorsque je célèbre un mariage, de la communion des jeunes mariés. D'abord, je trouve que c'est un génie de la réforme liturgique que d'avoir placé le sacrement du mariage, qui est un sacrement de l'Alliance, au cœur de la messe, qui est le sacrement de l'Alliance. Vous voyez, autrefois, on recevait des échanges des consentements, parfois c'était même à la sacristie, et puis ensuite, eh bien, on vivait une messe d'action de grâce, pour dire merci de cette belle chose qui s'était passée. Voilà, génie d'avoir réintroduit le sacrement de l'Alliance au cœur du grand sacrement de l'Alliance. Et génie d'avoir ce vis-à-vis des jeunes époux devant, en haut des marches, au pied de l'autel, vis-à-vis de celui qui représente le Christ qui se donne. Voilà qu'ils reçoivent ensemble le corps et le sang du Christ, l'amour total dans lequel vient être comme absorbé leur propre amour, leur propre consentement. Cette communion des époux nous renvoie à ce que le pape Jean-Paul II appelait le sacrement des origines. Quand on pense sacrement, on pense aux sept sacrements, nous les connaissons bien. Mais le sacrement de mariage a ceci de particulier qu'il préexistait à l'incarnation du Verbe. Il est le tout premier des sacrements, sacrement des origines, C'est-à-dire que Dieu, en créant l'homme et la femme, a voulu pour eux cette communion de personnes qui soit signe de la communion de personnes qu'il y a dans la Sainte Trinité et qui soit aussi réalisation, c'est-à-dire goûter cet amour même qui vient de Dieu, le goûter et l'exprimer. Alors parce que cet unique sacrement des origines, qui était comme une Eucharistie anticipée, parce que ce sacrement a été violemment blessé par le péché, cette prise de distance par rapport à Dieu, cette volonté d'être sans Dieu, de définir par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, plutôt que de se recevoir de Dieu, parce que cette communion a été profondément blessée dès le départ, eh bien, le Christ a voulu instituer le sacrement du mariage selon la Nouvelle Alliance, pour le soigner, le guérir et puis l'élever, parce que Jésus nous a montré plus que jamais jusqu'où pouvait aller l'amour humain. Pas de grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, l'amour jusqu'à la croix, l'amour qui porte une fécondité fabuleuse. Voilà où se rejoignent sacrement des origines, ce sacrement d'alliance et le sacrement de la communion que nous recevons le dimanche ou en semaine. Sacrement des origines, je disais, appelé à rendre visible l'invisible de la communion des personnes divines, mais aussi appelé à rendre visible le mystère de l'alliance. Voilà, que j'évoquais tout à l'heure, toute cette grande dynamique où Dieu veut établir un lien sacré entre l'homme et lui-même, parce que la vie de l'homme, c'est la vie avec Dieu, que s'éloigner de Dieu, c'est courir à sa perte, c'est entrer dans la mort. L'Écriture commence ainsi par ce premier mariage, en quelque sorte, hein, à travers l'union première d'Adam et Ève, et puis s'achève dans le mariage ultime, celui du Christ et de l'Église, dans l'Apocalypse. « Viens, Seigneur Jésus, l'épouse s'est apprêtée, elle est toute belle, et elle est épousée, elle s'unit à son Sauveur, le Christ. » Dans cette histoire de l'Alliance, qui n'est pas sans détour et sans heurts dans toute l'Écriture, eh bien, même les blessures vont être des signes importants. On va parler dès lors, dans le péché, avec le langage du mariage, le langage de l'Alliance. On va parler de prostitution, d'infidélité. Et les alliances que nous vivons ne sont pas non plus sans blessures. Alors, quand la communion des époux est fracturée, que le lien sacré est blessé par un autre lien charnel qui est établi à son détriment, la cohérence des sacrements de l'Alliance et la discipline du droit de l'Église veulent qu'on s'abstienne de recevoir l'hostie. Et comme je le dis souvent, ce sont des raisons que l'on n'a pas à juger. Je garde en mémoire l'intervention d'un professeur de droit canonique à l'Université catholique de Paris, qui était venu donner une conférence et répondre à des questions précises sur ce fait. Et il avait répondu qu'il ne fallait pas être dur vis-à-vis de ces personnes et de ces situations blessées, que si on s'examinait soi-même, il faudrait se rappeler que beaucoup d'autres situations pourraient nous tenir à l'écart de la communion. On peut penser aux situations de vie maritale, de gens qui qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés. On peut penser à ceux qui sont adultères et qui sont sans repentance. Ou bien aux couples mariés qui se ferment durablement à la vie par des moyens chimiques. Ou dans d'autres registres, à ceux qui n'ont pas été se confesser, recevoir la confession sacramentelle qui nous est demandée depuis plus d'un an. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ou bien encore ceux qui faussent leur déclaration d'impôt sans remords, ou ceux qui sont installés dans des mensonges sans sortir et sans le désir d'en sortir, des mensonges importants, je veux dire. Ou bien ceux qui refusent catégoriquement un pardon qui leur est demandé, qui leur est supplié. Voilà, au regard de toutes ces situations qui pourraient nous tenir, nous aussi, à l'écart de la communion, voilà, ne faisons pas peser un regard trop lourd sur des gens qui sont déjà blessés. Alors, vous voyez, on a abordé un point pratique et je voudrais justement à présent en venir à des questions assez pratiques, voilà, la communion en pratique. Et je voudrais en passer plusieurs en revue avec l'aide de ce que le droit de l'Église, qu'on appelle le droit canonique, nous précise. C'est pas tous les jours, je pense, que vous ouvrez votre code de droit canonique. Voilà. Et donc, on va en entendre quelques passages pour mieux comprendre ce qui nous est dit de la communion. D'abord, on se demande souvent quel est l'âge idéal pour une première communion. Quel est l'âge pour recevoir Jésus ? Parce que on voit parfois des tout-petits qui ont déjà une belle amorce de maturité spirituelle. Alors le numéro 913 du droit canonique nous dit « Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité et puissent recevoir le corps du Seigneur avec foi et dévotion. » Alors, on précise un cas particulier pour des enfants en danger de mort. Je ne sais pas si vous savez, chez nos frères orthodoxes, on reçoit à la naissance l'initiation chrétienne. On reçoit le baptême, la confirmation, et on reçoit aussi l'Eucharistie, petite parcelle d'hostie, petite goutte du précieux sang. Voilà, c'est reçu dès la naissance. C'est pourquoi en danger de mort, le tout petit peut recevoir aussi la communion. Il nous est dit dans le droit canon, les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l'âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle. Donc, on voit ici que l'âge de raison parle de 7 ans, 8 ans, voilà, c'est souvent l'âge qui est choisi pour faire la première communion. Il n'est pas bon d'attendre longtemps après. Certes, il faut qu'il y ait, comme le disait l'article, cette connaissance suffisante et puis cette préparation. Mais il n'est pas bon de faire tarder trop le petit. Et j'ai souvent été émerveillé par un sens de Dieu et comme des éclairs de vie mystique chez des enfants. Voilà, peut-être qu'ils sont un petit peu agités pendant la messe, mais qu'ils vont vivre quelques instants, peut-être brefs, qui nous dépassent largement en puissance spirituelle. Donc voilà, ne privons pas les tout-petits de cette possibilité-là. Alors, à quelle fréquence reçoit-on la communion? Eh bien, le droit canon dit « Tout fidèle, après avoir été initié à la Sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins une fois l'an. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année. » Voilà, au moins une fois par an. C'est bien peu, hein, vous direz. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenu de sanctifier le jour du Seigneur en venant participer aux assemblées dominicales. Mais rien ne nous oblige à recevoir la Sainte Communion à toutes les messes auxquelles nous participons. Rien ne nous y oblige. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on communie peut-être trop et qu'on ne se confesse pas assez. Autrefois, c'était un peu l'inverse. On se confessait beaucoup et on communiait très peu. Peut-être par un grand sens de la grandeur de Dieu, une grande crainte de Dieu, qui, vous savez, c'est une vertu. Mais il faut trouver un équilibre. Et le Concile Vatican II, dans son texte sur la Sainte Liturgie, dit « On recommande fortement cette parfaite participation à la messe qui consiste en ce que les fidèles, après la communion du prêtre, reçoivent le corps du Seigneur avec les pains consacrés à ce même sacrifice. » Voilà, on est quand même encouragé à la communion fréquente. Et je pense notamment au fait que la communion eucharistique, évidemment, il y a quelque chose qui se passe de très grand personnellement en nous, mais il y a quelque chose qui nous dépasse largement. Et lorsque nous avons part à la communion, nous communions aussi pour les autres et puis aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de la recevoir. Voilà, il y a un acte aussi ecclésial à recevoir la Sainte Communion. Et ça peut aussi nous pousser à la chercher fréquente, cette Sainte Communion. Je disais que pendant des siècles, on communiait assez peu. C'est le pape Saint Pie X qui a voulu, au début du XXe siècle, que l'on communie de façon plus fréquente, comme s'il y avait un besoin presque cosmique que ce sacrifice du Christ rejoigne le cœur de tous les fidèles et puisse transformer le monde. Parce que la communion, elle est bien source de transformation du monde. Alors, dans autre question, dans quelle disposition communie-t-on? Bien, il nous est demandé, évidemment, de recevoir dignement, dans un cœur réconcilié, la Sainte Communion. Alors, toute la messe, et on l'a vu à travers la conférence de la semaine dernière, et comme un escalier qui nous dispose à l'acte de communion, et la préparation pénitentielle, l'écoute attentive de la parole de Dieu vient purifier notre cœur pour que nous puissions recevoir. Et en définitive, « Je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Parce qu'il ne faut pas non plus être scrupuleux, on n'est jamais complètement digne, complètement prêt, complètement pur. Et encore une fois, c'est le pain de la route et non pas la récompense des justes. Mais il est sûr que si on a à la conscience des péchés graves, eh bien le code du droit canon nous rappelle qu'il faut avoir reçu... s'être confessé sacramentellement auparavant, ou bien, si ce n'est pas possible, rapidement, avoir une résolution, une contrition parfaite, avec cette résolution d'aller se confesser le plus tôt possible. Donc, un cœur purifié. Et puis, il y a cette pratique du jeûne eucharistique qui est un petit peu sorti de la vie de l'Église, il faut le reconnaître. Peut-être parce que ça a occupé trop de place dans le passé, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est un peu moins sur le registre des devoirs, de l'obligation. Mais il y a une belle vertu à ça. Alors c'est le canon 919. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra au moins une heure avant la sainte communion de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments. Alors c'est sympa parce qu'il y a une petite parenthèse pour le prêtre. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure. Merci. Et puis on a aussi un égard pour les personnes âgées et les malades et ceux qui s'en occupent. Ils peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure auparavant. Voilà. C'est un point d'attention en tout cas. Je disais qu'il y a une vertu à ça, c'est la vertu de se préparer vraiment dans son corps à l'acte de communier, que ce ne soit pas quelque chose de trop ordinaire. Le fait de se dire, de regarder sa montre, de dire tiens, est-ce que voilà, la messe est bientôt, je passe à autre chose, j'ai commencé à me disposer à ce que je vais vivre. Et puis donc de ne pas arriver la bouche pleine au moment où on va recevoir l'Eucharistie, qu'elle soit reçue à travers ce petit jeûne aussi, qu'elle vienne répondre à une faim, qu'on se rappelle à quel point c'est une nourriture et pas juste le vecteur d'une présence. Voilà, donc c'est une belle pratique qu'il se répond de retrouver dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés. Je parlais de la nourriture et j'évoque ici avec vous la question de la communion sous les deux espèces. Vous savez, on a l'usage de le faire vivre aux fidèles à l'occasion de la messe du Jeudi Saint. Cette année, on ne va pas le faire. Question d'hygiène. La communion sous les deux espèces, elle doit être accomplie par le prêtre. Sachez que quand vous recevez juste le corps du Christ, vous avez reçu le Seigneur intégralement. Il ne vous manque rien. Vous êtes pleinement visité par le Seigneur. Il est parfaitement présent. Donc vous ne manquez de rien. La seule chose, c'est que quand on reçoit sous les deux espèces, c'est le signe qui est complet. Le signe eucharistique est complet et pleinement réalisé. C'est pourquoi le prêtre le vit. Alors parfois, lorsqu'on a des petites communautés, on peut le vivre et c'est beau parce qu'on sent dans notre acte de communier, en effet, on est comme plus saisi par la totalité du signe que le Seigneur a voulu. Mais la communion n'est pas augmentée du fait qu'on a reçu les deux espèces. J'en profite pour une petite digression, parce que j'ai parlé de cet acte de communier et l'impression que ça nous fait. Je voudrais faire une petite digression sur un peu la différence de vision de la communion entre nous les catholiques et les protestants, les réformés. Alors, vous savez, c'est toute une constellation, hein, les réformés, donc difficile de parler en leur nom à tous, mais en particulier la doctrine de Luther, vous avez peut-être entendu ces mots de consubstantiation ou transsubstantiation. Comme c'est des mots compliqués, je voudrais expliquer en termes simples. Pour Luther, il y a la présence réelle du Christ qui est dans l'acte de communier. C'est quand le fidèle reçoit avec foi le pain que par la foi le Christ est présent réellement, mais non pas dans l'espèce du pain en tant que tel, mais dans l'acte de communier. Il y a quelque chose de plus subjectif. Pour nous catholiques, c'est la transsubstantiation, trans donc à travers, c'est déjà dans les espèces du pain et du vin, que la présence réelle du Christ demeure. Ceci est mon corps, dit-il, et non pas ceci symbolise mon corps ou ceci va être mon corps au moment où vous allez le mettre en bouche. Voyez, ceci est mon corps. Et c'est pourquoi ce corps, il va être adoré. Je ne voudrais pas déflorer la prédication de carême de la semaine prochaine sur l'adoration. Encore deux points par rapport à la fréquence de la communion. On se demande parfois, est-ce que j'ai le droit de recevoir, de communier à nouveau si je vis deux messes dans une même journée ? Eh bien, on a le canon 917 qui répond à cela. Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour, mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe. Donc, c'est le pain quotidien, c'est le pain supersubstantiel, comme dit le Notre Père, et qui a reçu cette totalité du jour. Principe, voilà, on est nourri pour la journée, donc il ne faut pas être dans une mentalité qui pense que ça va ajouter, voilà. Mais celui qui, pour différentes raisons, assiste à la messe une deuxième fois, eh bien, peut participer pleinement à cet acte de communion qui, comme on a vu, n'est pas uniquement vertical, mais aussi horizontal, voilà, avec toute l'assemblée présente. Je pense par exemple des situations où on a eu une messe de mariage ou une messe d'aumônerie le samedi matin, et puis le soir il y a la messe anticipée du dimanche, parce que vous savez, après les vêpres, les premières vêpres du dimanche qui sont le samedi soir, on entre dans le dimanche liturgique, d'où la possibilité qu'une messe qui est célébrée après cette heure-là soit déjà une messe dominicale. Donc, il peut y avoir ce genre de situation, et vous voyez qu'à ce moment-là, vous êtes autorisé à communier à nouveau. Et puis enfin, je voudrais dire quelques mots à propos du geste pour recevoir la communion. Il faudrait se mettre dans la peau de personnes tout à fait extérieures à nos communautés. Que penseraient-elles de la nature de ce que nous recevons en nous voyant communier ? Est-ce qu'ils se diraient, tiens, bon, il y a comme une file de moutons là, qui vont recevoir un ticket, et puis voilà. Ou est-ce qu'ils auraient la conscience, en nous voyant, qu'il y a le bien le plus précieux du monde qui est en jeu ? Alors, je suis parfois blessé de certains gestes qui banalisent beaucoup trop ce trésor qui est reçu. C'est pas comme un biscuit d'apéro qu'on reçoit en pinçant, sans regarder ce qu'on a dans le creux des mains. Soyons attentifs à notre façon, notre geste pour recevoir la Sainte Eucharistie. À l'inverse, je suis dans mon cœur bouleversé de joie quand je vois un beau geste, le grand acte d'amour par excellence. J'ai un de mes confrères prêtres qui, le jour de son ordination sacerdotale, bon, il avait dominé son émotion, tout se passait bien, et puis lorsqu'il a été donné la communion, il a explosé en sanglots de joie, d'émerveillement, parce que le Christ se donne pour être reçu, que toute la vie du prêtre est saisie par ce don du Christ. Voilà, ma propre devise d'ordination, c'est pour qu'ils aient la vie en abondance. C'est le don du Christ pour que cette vie soit répandue. D'où cette période du premier confinement qui était blessante pour les prêtres, parce que le prêtre n'a pas été ordonné pour communier tout seul dans un petit oratoire. Voilà, vous étiez privé de la communion, et nous les prêtres, nous étions privés de notre assemblée, du sens même de notre ordination. On est ordonné à la sainteté du peuple de Dieu. Et si le peuple de Dieu n'est pas là, ben, c'est un manque grave. Alors, un manque qui, lorsqu'il est ponctuel, peut nous faire grandir notre faim, notre soif, notre désir, mais qui ne doit pas se prolonger. Voilà, chers frères et sœurs, j'en viens à conclure. Nous avons vu que la communion eucharistique saisit ma personne, saisit ma communauté, ma famille, saisit l'Église tout entière, vient transformer le monde. Il est à faire là de bien plus que juste un instant personnel. Et je trouve que une belle image de ça, c'est l'épisode de la Visitation, où la Vierge Marie, qui vient de concevoir le Verbe de Dieu en sa chair, en sa propre chair, en son sein, et comme dans un premier instant de communion, elle a reçu dans son corps, et même là il s'agit de son corps historique, que nous n'avons plus, puisqu'il est monté aux cieux au 40e jour. Nous avons son corps spirituel dans la communion, le corps sous le mode du sacrement. Mais elle avait en plus le corps historique du Verbe de Dieu en elle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans son cœur? Tout de suite, l'élan de partir visiter sa cousine et lui rendre service. Tout de suite, ce désir de partager la merveille de ce qu'elle avait reçu et d'être dans l'exultation de ces merveilles. Vous voyez, dans la Visitation, à la fois le sein des deux femmes tressaille et les deux femmes elles-mêmes tressaillent dans ce qu'elles ont reçu l'une et l'autre. C'est pourquoi notre communion, elle est orientée à l'évangélisation, au service, au partage. Quand on dit aller dans la paix du Christ, c'est aller que cette communion reçue vienne transformer concrètement vos vies, mais aussi le monde qui nous entoure et notre monde concret dans notre travail, dans nos foyers, dans nos façons d'être avec les gens qu'on croise, et de porter généreusement l'annonce de ce que nous avons reçu. Pourrait se poser la question si ces communions reçues non seulement ne nous changent pas, mais ne changent pas non plus notre capacité à communiquer ces trésors, serait vraiment vraiment étonnant. C'est pourquoi il faut prier inlassablement la Sainte Vierge Marie pour nous apprendre à communier, nous apprendre à recevoir le Fils, à nous laisser transformer par ce que nous avons reçu, deviens ce que tu es. Voilà, qui mieux que la Sainte Vierge Marie est mieux devenue ce qu'elle avait reçu. Voilà, demandons-lui aussi que toutes nos communions portent du fruit. Il y a le fruit invisible, mais aussi portent un fruit de mission, bien concrètement, dès la sortie de nos églises. Aussi, frères et sœurs, pour terminer, je vous propose de vous lever pour que nous chantions la Sainte Vierge Marie.
Je vous salue, Marie,
Thank you.
Amen.